Allô, allô, ici Antoine Guillot pour ce nouveau numéro de Comment ça va le monde sur les questions de l'énergie. Sixième numéro, toujours en compagnie de Valentin Vinci. Valentin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on va se pencher sur ce numéro, comme sur le suivant d'ailleurs, sur les questions de l'énergie dite verte. Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on définit ça? Et puis, quels sont les inconvénients et les avantages de ces énergies qui sont très à la mode et dont on entend énormément parler? Donc déjà, pourquoi énergie dite verte et pas énergie verte tout simplement?
Alors, on avait choisi de rajouter ce terme parce que en fait, c'est un peu trompeur de dire que l'énergie est verte, de dire qu'elle est propre, de dire que quelque chose est propre ou vert. On commence à avoir la sensation avec les conversations qu'on a eues. Il n'y a pas grand chose qui est vert, il n'y a pas grand chose qui est propre, ça n'existe pas vraiment, les trucs parfaits, les trucs miraculeux. Donc moi ça me posait un peu problème d'avoir cette façon de qualifier ces façons de produire de l'énergie qui sont très différentes avec ce terme très très amélioratif, alors qu'on va voir qu'elles ont des inconvénients et qu'elles ne sont pas forcément vertes.
Alors, et qu'est-ce qu'on met justement, effectivement on rentrera dans le détail ensuite, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'énergie dite verte?
Ce qu'on appelle des énergies vertes en général, c'est des énergies qui sont non carbonées, non fossiles et renouvelables. Renouvelable, c'est un terme qui est important. Ça signifie dont le renouvellement est assez rapide, c'est une définition qui est précise, dont le renouvellement est assez rapide pour être considéré comme inépuisable sur des échelles de temps humaines.
Et ça représente quel pourcentage dans le mix de production énergétique, enfin d'électricité en France?
En France, c'est de l'ordre de 20%, et on verra que c'est 20% très divers. Et en fait, c'est 20% en France. Et alors du coup, tu vas me demander pour le monde, c'est environ 5%, moins de 5% dans le monde.
Ah, donc c'est rien du tout. C'est même moins que le nucléaire le mois dernier.
Ouais, c'est un peu moins que le nucléaire. Ça dépend un peu comment on compte. En fait, les énergies renouvelables, en général, si on considère la Terre comme un système fermé, elles exploitent deux flux d'énergie qui entrent dans le système. Donc, en gros, le flux d'énergie solaire. On va faire un peu de technique là.
Oui.
On va se représenter un système. On a le Soleil qui nous envoie un certain flux d'énergie.
Les rayons.
Voilà, c'est la chaleur du Soleil. Donc cette énergie elle arrive sous forme de lumière, sous forme de chaleur. Cette chaleur elle va piloter des déplacements de masse d'air sur le long terme, des déplacements de masse d'eau, y compris dans l'atmosphère. Donc elle va faire évaporer de l'eau, faire pleuvoir ailleurs, etc. Donc tout ça c'est quelque chose qui est piloté par l'énergie entrante, l'énergie solaire. Et il y a un deuxième flux d'énergie qu'on peut considérer comme entrant, c'est l'énergie du centre de la Terre. Donc c'est on va appeler l'énergie géothermique, qui est de l'énergie. Bon, en gros, le centre de la Terre est chaud de par la désintégration radioactive de certains éléments qui se passent en continu sous nos
pieds. Donc on récupère cette chaleur et on fait de l'électricité.
On peut en faire de l'énergie, même au-delà de l'électricité. On n'est pas obligé de faire forcément de l'électricité.
Oui, parce que sans en faire de l'électricité, on peut chauffer de l'eau, par exemple.
Exactement. Et donc, ce qu'on appelle énergie verte en général, c'est de l'énergie qui est renouvelable parce qu'elle exploite un de ces deux flux via des convertisseurs dont on parlera probablement la prochaine fois.
Flux qui a priori sont infinis.
Qui sont infinis à l'échelle humaine puisque je crois que le Soleil va arrêter de briller un moment.
4 milliards d'années. On sera a priori plus là.
Voilà, c'est ça. C'est que à l'échelle humaine, ces flux sont considérables comme sont considérés. On peut les considérer comme infinis.
Alors, on a l'impression, dit comme ça, que ces énergies vertes, en fait, c'est la solution à tout problème. Parce que s'il suffit de planter une carotte dans le sol pour récupérer la chaleur pour en faire de l'électricité, pourquoi on n'en fait pas plus?
C'est des questions d'ordre de grandeur, c'est des questions de collecteur, de la fabrication du collecteur. T'as parlé de faire un forage dans le sol. Bon, bah, ce forage, il n'est pas gratuit. Ce forage il a un coût carbone, un coût énergétique, etc. Et donc il faut la question c'est toujours combien est-ce qu'on récupère pour combien est-ce qu'on a investi, notamment en termes d'énergie, c'est pas uniquement en termes financiers. Est-ce que les ordres de grandeur qu'on récupère sont suffisants, sont pertinents pour les ordres de grandeur dont on parle. Donc voilà. C'est toujours ça les questions. Et est-ce que la construction du collecteur et éventuellement son recyclage, puisque la semaine dernière on parlait, le mois dernier on parlait des centrales nucléaires qu'il faut construire et démanteler. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas à construire et à démanteler les appareils qui nous aident à collecter.
A priori, c'est plus simple de construire et de démanteler une éolienne qu'une centrale nucléaire.
Ah, sur une éolienne, totalement. Après, autant d'éoliennes qu'il en faut pour remplacer une centrale nucléaire, ça discute.
Donc ça veut dire qu'une éolienne produit rien du tout, ou alors il faut combien d'éoliennes pour remplacer une centrale?
Alors, ça c'est une question qui est sujet à débat, ça dépend comment on compte. Si on compte en termes de puissance, une éolienne c'est environ 2 mégawatts, une centrale, un réacteur de centrale c'est environ 1000.
Ah oui, donc ça veut dire qu'il en faut 500, il faut 500 éoliennes pour remplacer une centrale, un réacteur.
En termes de puissance installée. Et après, on sait que la puissance installée, elle n'est pas égale à la puissance, elle n'est pas égale à l'énergie produite, puisque la centrale, on a un certain contrôle, voilà. Donc on a, est-ce que le vent souffle? Le vent souffle pas toute l'année, etc. Donc on fait rentrer là-dedans un facteur de charge. En gros, c'est de l'ordre du millier d'éoliennes pour remplacer un réacteur. Probablement plus, ça dépend de la taille des éoliennes, ça dépend où elles sont placées.
Ouais, il faut savoir où les mettre, quoi. Et personne veut d'éoliennes dans son jardin.
Ça, c'est une personne veut de centrale non plus dans son jardin.
On a besoin de moins, quoi.
Donc, il y a un certain nombre de nuisances, il y a un certain nombre de désavantages qu'ont ces énergies vertes, qu'il faut absolument, dont il faut tenir compte quand on en parle. Et c'est pour ça que, à mon avis, verte est un terme qui est impropre.
Oui. On a l'impression, là, en parlant, que c'est un mode de production qui est assez nouveau.
Alors, en l'occurrence, c'est un mode de conversion de l'énergie qui est pas si nouveau que ça. Tu parlais des éoliennes, je sais pas si tu te rappelles des moulins de Hollande qu'on a construits il y a un certain temps, qui sont quand même très très proches d'une éolienne. C'est un bateau à voile, c'est un bateau à vent, ni plus ni moins. Et le bateau à voile, ça existe depuis un certain temps. Donc, voilà, les façons de convertir des énergies des flux renouvelables en électricité sont relativement nouveaux, mais parce que l'électricité c'est quand même relativement nouveau dans l'histoire humaine. En revanche, les façons de convertir des flux d'énergie renouvelable en énergie mécanique, typiquement, c'est quelque chose qui est très ancien.
Oui.
Très très ancien.
Avec cet exemple du moulin, par exemple. Oui.
Exactement. Et donc, on peut même aller plus loin. L'énergie non renouvelable, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent que l'énergie renouvelable.
Oui.
Puisque c'est arrivé avec le charbon, le pétrole, du gaz, et l'hiver. Et donc, avant ça, on avait de l'énergie 100% renouvelable. On en avait moins.
Quelle est, parce que donc ces énergies-là, ces modes de production-là bénéficient d'une image très populaire. Pourquoi est-ce que on s'engage pas plus là-dedans, et pourquoi en fait ça bénéficie d'une image populaire, puisqu'on commence à le voir, en fait il y a des nuisances aussi.
Alors ça bénéficie, alors là je vais un peu donner mon avis, j'ai l'impression que ça bénéficie d'une image populaire parce que précisément les nuisances sont déportées, c'est-à-dire que on n'a pas de nuisances on a peu de nuisances à l'utilisation.
Ça défigure les paysages et ça fait un peu de bruit quand on vit à côté, mais c'est à peu près tout.
Voilà, c'est des nuisances qui sont, on va dire, faibles, qui sont relativement diffuses, et aussi parce qu'on en a peu. Ouais, je vais mettre deux explications. Un, les nuisances se trouvent principalement à la fabrication et au recyclage des objets qui collectent cette énergie. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est quand on fabrique le panneau solaire et quand on recycle, que ça pose des problèmes et des nuisances.
C'est parce que c'est des terres rares qui sont forées et extraites en Chine, donc on ne le voit pas ici.
En l'occurrence, c'est pas forcément des terres rares, mais c'est effectivement de la métallurgie, des trucs qui sont extraits du sous-sol, qui sont pas forcément des terres rares, différents métaux qui sont extraits du sous-sol, qu'on doit porter à trop de température, qu'on doit purifier avec de la chimie qui est pas forcément propre. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait pas chez nous. Voilà, donc la fabrication et le recyclage, s'il y en a un, ou en tout cas le déconditionnement de ces appareils de conversion d'énergie renouvelable, vu que ça se passe loin de chez nous, c'est des nuisances qui sont, qu'on a du mal à intégrer, mais il y en a. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les nuisances sont faibles parce que pour l'instant, on en a installé peu. On en a installé très très peu de ces deux exemples-là. Donc là, on a parlé des éoliennes et du photovoltaïque. Il faut savoir que c'est la grande masse du renouvelable, c'est pas du tout ça, c'est l'hydroélectricité.
Donc les barrages dans les Alpes.
Les barrages, alors les gros barrages de lacs, mais il y a aussi des barrages au fil de l'eau qui sont un peu moins impressionnants, tout au long de l'Isère, typiquement. C'est pas que des grosses superstructures comme on a à Tignes, voilà. Il peut y en avoir partout, des conduites forcées, etc., le long du Rhône, jusqu'au bout du Rhône. Mais donc ça fait la grosse masse de ce qu'on appelle les renouvelables, hein, dans les 5% dont on parlait tout à l'heure environ. La plupart de ces 5%, c'est ça. Et pour l'instant, ce qu'on appelle le nouveau renouvelable, à savoir l'éolien et le solaire, on en a installé très peu dans le monde. Vraiment très très peu. C'est l'épaisseur du trait. On est en dessous du pourcent. Et donc, du coup, c'est difficile d'évaluer des nuisances massives quand on a une installation qui l'est si peu. Donc, il est probable qu'on aura des nuisances dont on va se rendre compte après.
Alors, on parle donc du solaire, de l'éolien, on a parlé de l'hydraulique, mais il y a d'autres moyens de production divers.
Divers?
Oui.
On a parlé de l'éolien et du solaire photovoltaïque parce que c'est les plus aboutis. On peut aussi parler du solaire thermique. On en a un tout petit peu parlé la semaine dernière parce que le solaire thermique, ça fait bouillir de l'eau et ça, on alimente une turbine. On peut parler de la géothermie. Alors il y a plusieurs façons d'utiliser la géothermie, soit en chaleur directe, soit carrément pour faire bouillir de l'eau, pour faire de l'électricité, il faut en prendre très très chaud. En général, il faut être dans une zone volcanique, en Islande, dans une île comme par exemple en Bretagne.
Et on peut utiliser l'hydraulique aussi dans la mer pour utiliser le mouvement des vagues. Et ça, ça pourrait être une bonne solution, parce que ça veut dire que les nuisances et les machines, elles sont au large, on les voit pas, si ça fait du bruit, on s'en fout, parce qu'on n'est pas là-bas. Pourquoi on ne développe pas ça?
Alors, il y a l'éolien offshore, mais il y a effectivement le marée moteur, voilà, l'énergie ou l'eau motrice, je crois que c'est ça. Donc, le marée moteur, ça... Alors, du coup, c'est un flux d'énergie qui est... dont on n'a pas parlé, mais du coup c'est l'énergie des marées, donc qui est liée au fait qu'on a un satellite naturel qui s'appelle la Lune qui crée des marées, donc le marée moteur, le houleau moteur qui récupère l'énergie des vagues, donc qui est plutôt lié au vent. On a éventuellement de l'hydrolien qui récupérerait de l'énergie du courant, et on a même des trucs un peu plus exotiques comme des dispositifs qui récupéreraient l'énergie de salinisation de l'eau dans les estuaires. Ça c'est très très intéressant. Il y a un énorme problème avec ces techniques dans la mer, c'est qu'en fait la mer elle est salée, et c'est très difficile de faire des matériaux, tout un tas de raisons, qui aient à la fois les bonnes caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire des résistances au choc, à la pression, à la contrainte qui soient suffisantes, et des caractéristiques de résistance chimique à la corrosion qui sont suffisantes pour vivre dans l'eau de mer. Et c'est pour ça... Ça a l'air trivial, hein, mais ça fait des centaines d'années qu'on cherche à faire des matériaux qui roulent pas, et on sait toujours pas.
Et pourtant, on fait bien de l'éolien offshore.
On en fait depuis très peu de temps.
Mais donc on a trouvé une solution.
Ça nécessite un peu plus d'entretien, ça nécessite des matériaux de départ qui sont un peu plus coûteux. Néanmoins, ça a aussi des contreparties, puisque le vent en mer est plus stable, donc on a quelque chose qui est moins fluctuant.
Qui est plus constant.
Qui est plus constant. Donc, voilà.
Et puis on peut fabriquer des éoliennes plus grosses.
On peut fabriquer effectivement des éoliennes plus grosses, on n'a pas de problème de voisinage. D'un autre côté, on sait que les écosystèmes marins, ils aimeraient bien qu'on leur foute un peu la paix aussi. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de l'ordre du bon équilibre à trouver pour éviter de dégrader des choses qui ne le sont pas déjà. Et voilà, il y a... On a déjà parlé de l'équilibre à trouver entre nuisances et bénéfices. C'est très exactement ça. Quelles nuisances on est prêt à supporter, quelles nuisances on est prêt à faire supporter éventuellement aux autres organismes vivants, parce qu'il n'y a pas que nous. Une hydrolienne sur un courant marin, bon, quand il y en a une, ça va. quand on a plusieurs, faut voir. Quoi. On va foutre des trucs chez les poissons, quoi. Ils ont.
Non mais. Bon, a priori, c'est pas forcément. Enfin, la considération qu'on a pour les poissons, c'est quelque chose qui nous dérange.
Voilà. Mais voilà. C'est peut-être que c'est comme ça, qu'il faut voir les trucs.
Ouais.
Enfin, non mais je dis pas ça devrait. Moi, je dis rien. Je présente les nuisances. C'est pas à moi de décider si le poisson est important ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on décide collectivement.
Peut-être qu'on peut se pencher sur certains de ces modes de production en particulier.
Tout à fait. Bah, je propose. Donc, on a dit que c'était l'hydraulique, donc l'énergie hydroélectrique, qui était la principale. On peut peut-être commencer par celle-ci. Bon, alors celle-ci, c'est assez simple. En gros, on met des turbines le long des cours d'eau avec des retenues d'eau, qui permettent donc de gérer le débit, et on peut donc équiper un certain nombre de fois le cours d'eau avec ces turbines, et ça nous permet d'avoir de l'électricité de façon relativement pilotable, c'est-à-dire que c'est peu dépendant de la météo.
Le flux du cours d'eau est constant, plus ou moins le débit est à peu près constant. En fait,
c'est à peu près constant, donc moyennant les différentes sécheresses, moyennant l'état des glaciers. Ce qui est assez intéressant, c'est que le réchauffement climatique commence à se sentir sur les productions hydroélectriques, notamment en France. On commence à le sentir, on commence à le voir
parce que les flottes sont moins de débit.
Il y a un peu moins de flottes qui arrivent jusqu'aux turbines. Pour être très précis, c'est exactement ça. C'est qu'il y a moins de flottes qui arrivent jusqu'aux turbines. Et parce que soit il pleut moins, soit elles s'évaporent avant.
Ouais. Mais il y a une nuisance aussi pour les poissons dont on parlait tout à l'heure. Alors c'est pas les mêmes poissons, si
c'est pas les mêmes poissons. Non mais c'est une nuisance qui est très importante.
Parce qu'en fait un poisson qui passe dans une turbine, il est broyé.
Alors ouais. Mieux pas qu'il passe dans la turbine. En général, alors maintenant on leur a aménagé des dispositifs pour passer à côté des turbines et pour pas passer dedans. Déjà parce que les turbines elles pourraient passer que dans un sens alors que il faut qu'ils puissent remonter la rivière. Mais effectivement, quand on équipe un cours d'eau complètement en hydroélectricité, on l'artificialise de bout en bout. C'est-à-dire que c'est un cours d'eau qui...
C'est un cours d'eau robot.
C'est un cours d'eau qui n'est plus, qui ne vit plus naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crue, qui n'a plus de crue et d'écrue naturelle. Le régime alluvionnaire est complètement changé. Et donc ça change tout le cours d'eau. Donc c'est quand même une nuisance qui est importante. Qui a une contrepartie intéressante, c'est qu'on fait de l'électricité avec ça. Donc,
on fait beaucoup d'électricité, enfin, le rendement est intéressant avec ce système.
On fait beaucoup d'électricité, alors, ça dépend ce qu'on appelle beaucoup, il y a des pays qui s'en sortent uniquement avec ça. Quelques pays qui ont peu de monde, donc notamment les pays scandinaves, qui ont une densité de population qui est faible par rapport à la quantité de glaciers et de cours d'eau qu'ils ont, ils arrivent à équiper suffisamment le pays pour s'en sortir pratiquement. Avec.
C'est le même système que les barrages qu'on peut voir dans les Alpes, par exemple.
Bien sûr. Alors le barrage, il y a en plus une fonction de stock qui est ajoutée, c'est-à-dire qu'on est moins dépendant du débit du fleuve. Puisqu'on la retenue d'eau, il y a une retenue d'eau massive qui est...
Oui, on décide ou non d'ouvrir le barrage et de faire
des turbines. Voilà. Et on peut même rajouter une fonction de stock en faisant remonter de l'eau, comme on en a parlé quand on parlait de stockage d'énergie. Et ce qui est une caractéristique qui est économiquement et techniquement extrêmement intéressante. Donc, on a quelque chose qui est très complet, en fait, avec l'hydroélectricité. Malheureusement, en France, par exemple, ça représente, alors qu'on a largement installé nos cours d'eau, donc on ne pourrait pas installer beaucoup plus, et que si on installait plus, ça poserait un certain nombre de problèmes de voisinage, parce que ça s'est installé à des moments et à des endroits où il y avait peu de gens, et on va dire où la contestation était moins médiatisée, mais grosso modo, quand on fait un barrage à Tignes, on bouge complètement une vallée, et s'il y a un village dans la vallée, et ben c'est ce qui s'est passé à Tignes, il est englouti. Donc ça veut dire qu'on déplace un village en entier, les habitants sont pas forcément contents, est-ce que c'est socialement acceptable, est-ce que c'est... Ben, donc, du coup, en France, pour installer ce qui produit environ 20% de notre électricité, on a largement équipé nos cours d'eau, on pourrait pas les équiper beaucoup plus. On ne fait que ça.
Parce qu'on parle de à peu près 20% d'électricité. Si on reparle du mix énergétique, du mix d'électricité en France, il y a 80% de nucléaire disons 19% d'hydraulique et 1% de solaire et éolien.
Oui, alors il y a un peu de, on a un peu de combustion aussi pour assurer des moments soit très tendus, donc on brûle un peu de gaz ou un peu de fuel. On a un peu de, un tout petit peu de biomasse. Et puis voilà, on a un peu de solaire, d'éolien, et du coup on est plutôt à 75-76% de nucléaire, 18-17%, ça dépend des années pour l'hydraulique.
Et puis 4-5 pour le...
Voilà.
Donc effectivement l'hydraulique c'est une énergie renouvelable, un mode de production d'énergie renouvelable dite verte, qui a ses limites aussi, puisque on ne pouvait pas en faire beaucoup plus. On veut se pencher sur un autre mode de production.
Ben, on pourrait parler très rapidement de l'éolien. Mm-hmm. On a déjà un peu parlé. Donc l'éolien, ça consiste à exploiter le dépassement de masse d'air qu'on appelle du vent, en fait. Et exactement de la même façon que l'hydroélectricité, c'est exploiter le dépassement de masse d'eau par gravité. Et ben l'éolien, c'est exploiter le dépassement de masse d'air d'un endroit où l'atmosphère est en surpression par rapport à un endroit où elle est en dépression, qui sont des phénomènes météo qui commencent à être bien connus, et donc en fait sur le choix on met des ventilateurs inversés qui s'appellent des éoliennes, qui tournent quand il y a du vent et qui, du fait d'un générateur, produisent de l'électricité. Et donc de fait ils produisent de l'électricité en fonction du débit du vent, en fonction de sa vitesse, et quand il n'y en a pas, ils n'en produisent pas. Donc ça c'est une des limites.
C'est une limite, surtout qu'on rappelle que on sait pas stocker l'électricité. Donc, si on avait que de l'éolien, en fait, on aurait de l'électricité quand il y a du vent.
Ben, on parlait tout à l'heure.
Si c'est en Bretagne.
On a parlé des bateaux à vent, que sont les bateaux à voile. Il y a des explorateurs dans l'histoire qui ont expérimenté des pannes d'énergie éolienne. Comme par exemple Christophe Colomb, qui me semblait-il a trouvé le temps un peu long quand il était sur la mer, et puis qu'il n'y avait plus d'énergie éolienne à disposition. Donc effectivement, on est dépendant des conditions météo, des conditions notamment de vent. Ce qui est intéressant à savoir, donc on pourrait se dire que c'est pas très grave, parce que du vent, s'il en fait pas au nord, il en fait au sud. Alors ça ne marche que si le territoire est extrêmement grand.
Mais en France, il y a toujours un endroit en France où il y a du vent.
Alors, il y a toujours un endroit en France où il y a du vent. La question, c'est est-ce que les volumes sont bons? Et là, la réponse est qu'en fait, non. En gros, le vent, quand il y a du vent qui souffle suffisamment pour faire tourner les éoliennes à plein régime, il souffle partout sur la France. Et c'est plutôt vrai sur toute l'Europe, d'ailleurs. Et quand il souffle pas, il souffle nulle part. En gros, l'Europe est un territoire un peu petit pour imaginer avoir le nord qui compense le sud et l'ouest qui compense l'est en termes de vent.
Et pour autant, on a zéro problème de transport, a priori. Il y a une petite perte, mais on peut très bien avoir de l'électricité produite en Suède, qu'on amène en France, et ça pose pas trop de problèmes.
Ça pose pas de problème technique, il y a quelques pertes sur le chemin, qui se comptent en pourcent. Qui existent et qu'on peut compter, donc elles sont significatives. Est-ce que c'est bloquant? C'est une autre question. C'est pas bloquant techniquement, mais effectivement, il y a un peu de faire.
Un autre désavantage de l'éolien, ce serait peut-être la fabrication.
Le vent, c'est une énergie qui est diffuse, qui est peu dense. Par rapport à l'eau, en fait, typiquement, et encore plus par rapport au pétrole, et on a déjà eu cette discussion de la densité de l'énergie. Donc, le vent, c'est une énergie qui est très diffuse, donc il faut une énorme masse d'air pour récupérer peu d'énergie. Donc il faut beaucoup de collecteurs.
Donc il faut des grandes éoliennes.
Il faut des grandes éoliennes, il en faut beaucoup. Beaucoup. Ce qui fait que l'intensité matériaux du système pour récupérer un peu d'énergie, c'est-à-dire la quantité de matériaux qu'il faut faire rentrer dans le système, est importante et significative. Donc ça, c'est un gros problème. C'est un problème pour des questions de ressources, c'est aussi un problème pour des questions de fabrication. Alors l'éolienne, c'est pas extrêmement compliqué à fabriquer non plus. Alors c'est des matériaux composites qui sont difficilement recyclables. C'est beaucoup d'acier pour le mât et c'est du béton pour la base. Beaucoup de béton. Il faut significativement plus de béton pour faire un système d'éolien à puissance installée équivalente. Il faut significativement plus de béton pour de l'éolien que pour de l'unitaire.
Oui, parce qu'il faut que la base supporte les vibrations.
Il faut quelque chose qui soit solide, parce qu'il faut que ça tienne quand il y a du vent, en fait. il faut pas que c'est relativement haut, c'est une grosse prise au vent, parce que c'est le but de l'objet, d'avoir une bonne prise au vent. Donc, collecter beaucoup. Donc, il y a une contrainte qui est importante, donc une grosse base. Voilà. Donc ça, c'est, il faut fabriquer et, déconstruire et recycler tout ça, ce qui pose un certain nombre de problèmes techniques, parce que les pales, typiquement, ne sont pas recyclables. C'est pas des problèmes insurmontables, hein. C'est pas dangereux, on pourrait les stocker quelque part, on pourrait en faire des œuvres d'art, que sais-je. C'est pas quelque chose qui est insurmontable, mais c'est quelque chose qui est existant. On peut pas dire que ça n'existe pas, ça fait partie des nuisances. Et après, il y a un certain nombre de nuisances sur le paysage.
Et ces nuisances-là, est-ce qu'elles pourraient pas, avec les avancées technologiques, elles pourront être gommées à terme? Est-ce qu'on saura peut-être faire des éoliennes qui font pas de bruit?
Peut-être, oui. Je crois qu'on a déjà dit ça, mais c'est délicat de parier sur des trucs qui n'existent pas. Je recommande de parler uniquement de ce qui existe, parce que ce qui n'existe pas, par définition, c'est pas que ça va être. Donc peut-être que après demain on va trouver une éolienne qui est beaucoup plus efficace et qui ne donne pas d'effets stroboscopiques et qui a l'approbation de tout le monde parce qu'elle est très très belle. Néanmoins aujourd'hui c'est pas le cas.
Donc en fait là tu es en train de nous dire que l'éolien c'est très contraignant, il y a beaucoup de nuisances et en plus ça produit quasiment rien. Donc c'est pas du tout une solution. Je sais pas pourquoi ça nous a fait ça en fait.
C'est une solution qui est parfaitement décarbonée.
Très peu carboné. À la fabrication, parce que la fabrication, oui, voilà.
Qui est très très peu carboné.
Voilà, très très peu carboné. Comme le nucléaire ou comme d'autres.
Qui a aussi d'autres nuisances et que, encore une fois, on va.
Mais donc, déjà, là, ce qu'on peut commencer à dire, qu'on verra prochainement aussi, c'est que l'éolien, non, ce n'est pas une solution pour sortir du nucléaire. Ça n'a rien à voir.
C'est pas une solution miracle. C'est pas une solution. Il n'y a pas de solution miracle, et avec l'éolien, on n'a pas les ordres de grandeur qui sont suffisants pour ni un mix énergétique complet, puisqu'on n'a pas de stockage, on n'a pas de régularité. L'éolien ne suffit pas en tant que tel pour sortir du nucléaire. Mais du charbon, et ou du pétrole, et ou quoi que ce soit. En fait. Et parce que on est en train de parler d'un problème qui est complexe avec des ordres de grandeur qui sont monstrueux. On s'est créé une dépendance au pétrole qui est très très importante dans des ordres de grandeur qui sont difficilement accessibles à la sensation. Et non, l'éolien est insuffisant comme tout le reste. Et du reste, le nucléaire est aussi insuffisant en fait. C'est pas du tout les bons ordres de grandeur.
Mais c'est insuffisant, mais ça pourrait ne pas l'être. Il suffit de faire 10 réacteurs en plus, et puis on aurait 100% de notre mix énergétique qui serait nucléaire.
Ouais, en France. En France, avec, comme tu l'as souligné, un apport d'uranium qui vient pas de chez nous, qu'on pourrait peut-être faire venir de chez nous, mais qui dans tous les cas est limité, qui nécessite un état fort, qui nécessite pas. Donc il y a un certain nombre. En fait, on va le redire à chaque fois, hein, mais toutes les façons de produire de l'énergie ont des nuisances, parce que c'est un peu le concept de l'énergie. C'est qu'on va changer un système d'état. C'est ce qu'on disait à la toute première émission. Et ça va occasionner des nuisances. Il va falloir choisir lesquelles on décide de supporter, choisir combien on décide de supporter. L'éolien, il y a un certain nombre de nuisances. C'est pas très très efficace, c'est un peu disgracieux selon certains, ça nécessite beaucoup de matériaux, il y a un certain nombre d'avantages, comme par exemple il n'y a pas de particules fines, ou en tout cas il n'y a pas de particules fines à l'utilisation, et c'est décarboné. Et voilà, et donc on va choisir nos nuisances, lesquelles on préfère supporter. Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Est-ce que c'est la vue d'une éolienne dans son jardin? Est-ce que c'est une centrale nucléaire? Et combien on décide d'en supporter, ça va conditionner combien d'énergie on aura à disposition.
Valentin Vinci, merci. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Comment ça va ?
Ici, chaque élément de pâle va recevoir non pas deux vitesses de vent, mais une seule qui est la composante des deux matérialisée par le vent apparent.